Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
8h35, bonjour Jean-Mathieu Pernin.
Bonjour.
De nombreuses fake news, fausses nouvelles accompagnent l'épidémie de coronavirus et tous les matins, on essaye d'y voir plus clair. Grâce à vous, aujourd'hui, non, les mosquées et les synagogues ne sont pas les seuls lieux de culte ouverts.
Et voilà, une vidéo partagée des milliers de fois sur Facebook, un homme face caméra expliquant ceci. Les synagogues ne sont pas fermées, sachez-le, les synagogues sont les seuls lieux de culte français à ne pas être obligés de fermer pendant les rassemblements de prière. Plus tard, sur Twitter, ce message issu d'un compte d'extrême droite, humiliation de la France et des Français à Lyon, alors que les églises ont été fermées manu militari, les mosquées restent ouvertes. Alors des messages relayés par des comptes extrémistes avec un message clair, France, fille aînée de l'église, tu ne peux plus prier, tu es envahie par les autres religions qui dictent leurs lois. Alors, c'est un message assez subtil, hein, mais une nouvelle fois, totalement faux, bien sûr. Les seuls lieux de culte ouverts en France sont les églises, justement, mais oui. Interdiction de réunir plus de 20 personnes. Donc, on privilégie la prière individuelle. Les synagogues et les mosquées sont fermées. C'est un choix des autorités et des conseils religieux. Sur le front du coronavirus, pas encore de guerre de religion.
Et ces décisions ont été prises avec l'ensemble des conseils religieux, on est bien d'accord.
Sûr.
Quelle est l'origine de cette rumeur?
L'autre et sa religion. En fait, c'est un classique des théories conspirationnistes. Concernant les mosquées, ces contes s'appuient sur une prière lancée depuis la mosquée de Lyon le mercredi 25 mars, mais en même temps que les cloches des églises qui, ce jour-là, rendaient hommage au personnel soignant. C'est tout. Aucune autre prière n'est lancée depuis les minarets en France, contrairement à des intox que l'on trouve sur des médias d'extrême droite. Concernant les synagogues, là, c'est aussi un affreux classique. Dès qu'il y a une crise, on trouve des remarques anti-juives, des caricatures antisémites refaisant surface, ce fantasme des femmes et des hommes de l'ombre qui tirent les ficelles et qui auraient tous les droits. Il y a des listes de noms de personnalités de confession juive qui sont diffusées, à tel point que le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme a déposé depuis une semaine une douzaine de plaintes. Alors l'excitation est à son comble chez les conspirationnistes, puisqu'au mois d'avril, ce sera Pâques pour les chrétiens, enchaîné avec les fêtes de Pessah, la Pâque juive, et le Ramadan qui doit débuter au 24 avril. Bref, une succession presque étrange, je me demande s'il n'y aurait pas un complot là-dessus.
Et puis face aux fake news, certains gouvernements tapent fort. Hein.
Voilà, comme la Russie, une nouvelle loi est en cours d'adoption à la Douma, le Parlement russe, prévoyant que si une personne est reconnue coupable d'avoir diffusé des informations intentionnellement fausses concernant le coronavirus, peut être punie de 3 à 5 ans de prison. Alors, c'est un geste fort de la part de Vladimir Poutine. Seul souci, la loi ne concerne que le coronavirus, alors que la Russie a été pointée du doigt par l'Union européenne pour diffuser des fake news pendant les élections, notamment en France, en 2017. C'est pas toujours facile d'être exemplaire.
Merci beaucoup Jean-Mathieu Pernin. On continue de combattre les fausses informations dont on a compris qu'elles peuvent être très dangereuses avec vous tous les matins sur RTL, en particulier dans cette période de coronavirus.
RTL Matin, Yves Calvi.
8h39, on retrouve notre brigade RTL Coronavirus. Bonjour Odile Pouget.
Bonjour.
Les auditeurs sont nombreux à nous contacter. Une question de Clarisse. J'ai le rendez-vous pour les 4 mois de ma fille qui a été annulé par mon pédiatre. Il y a cependant des vaccins à faire. Est-ce considéré comme une question urgente?
Oui, il faut absolument respecter le calendrier vaccinal des jeunes enfants. C'est très important pour les protéger contre des maladies qui peuvent être graves, hein, la rougeole, la méningite par exemple. Et ce n'est pas parce que votre bébé ne fréquente plus la crèche qu'il ne doit pas recevoir ses rappels à intervalles réguliers, définis par un protocole. Alors bien sûr, on n'est jamais à une semaine près, mais essayez dans la mesure du possible de respecter ces rendez-vous. Et si vous trouvez porte close, ce qui peut arriver, il existe partout en France des centres de PMI, la protection médicale infantile, où votre enfant peut être vacciné.
Irène, je suis suivie à 20 km de mon domicile par un ostéopathe suite à une grave chute. Mon deuxième rendez-vous a été fixé voilà un mois au 3 avril prochain. Puis-je m'y rendre sans avoir à payer une amende? Et si je suis contrôlée, même avec l'attestation obligatoire?
Vous ne risquez rien, Irène, si vous êtes munie de cette attestation sur laquelle vous aurez coché la case adéquate, puisqu'il s'agit a priori d'une consultation qui ne peut se faire à distance et qui, dans votre cas, ne peut être différée. Le problème en ce moment, c'est de trouver un cabinet ouvert. Les ostéopathes ne sont pas considérés comme des professionnels de santé, donc pas prioritaires pour les équipements en masque, notamment. Beaucoup d'entre eux ont renoncé à accueillir leurs patients, mais selon le syndicat français des ostéopathes, eh bien, certains prennent les patients au téléphone pour estimer le degré d'urgence de leurs besoins.
Pascal nous demande, je suis suis fumeur, si je suis atteint du coronavirus, y a-t-il un risque de contaminer mes proches en rejetant dans l'air la fumée de ma cigarette ?
Alors on sait que le coronavirus ne flotte pas dans l'air, qu'il se transmet par les postillons lorsqu'une personne est rapprochée à 1 mètre, 1 mètre 50 de distance ou plus rarement par contact avec une surface souillée. Il n'y a pour l'instant aucune preuve scientifique que les particules virales survivent dans la fumée exhalée. On sait en revanche que les fumeurs infectés peuvent contaminer davantage leurs proches du fait de leur toux fréquente et qu'ils ont tendance à enlever très souvent leur masque de protection pour pouvoir fumer justement, d'où le danger encore une fois pour les proches.
Ce qui est logique. Une question d'Edwin qui est inquiet de la mortalité chez les adolescents. On a de plus en plus de cas de décès. Qu'en est-il exactement ?
Alors, les trois cas jusqu'à présent en France, en Belgique, au Royaume-Uni, ces cas sont extrêmement rares, il faut le dire. Les médecins n'ont pour l'instant pas d'explication. On sait notamment que Julie, l'adolescente française de 16 ans, n'avait pas d'antécédents particuliers. Les enfants, en très grande majorité, les jeunes sont épargnés par les formes graves. Ils peuvent être touchés par la maladie, mais ils sont très souvent asymptomatiques ou alors ils développent des symptômes très légers. Il faut le dire, l'âge moyen en réanimation, c'est 65 ans. Et sur les plus de 5000 personnes qui sont aujourd'hui dans ces services de réanimation, donc des cas très graves, eh bien, il y en a une petite soixantaine qui ont moins de 30 ans.
Soyons très clairs, hein, les cas, en tout cas, sur les adolescents, sont, on en a parlé, c'est tout à fait normal, mais rarissime, vous venez de nous le confirmer. Odile Pouget, merci beaucoup. On va tout de suite retrouver Vincent de Rosier de notre service politique. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Quelle est cette mission d'information parlementaire qui doit ce soir recevoir le Premier ministre et le ministre de la Santé ?
Alors, c'est un petit groupe de députés. Ils sont une quarantaine de tous bords politiques. Et le patron de cette mission, c'est Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Leur job, c'est d'enquêter sur un sujet donné. Ce soir, ce sera le Covid-19. Hein, mais par le passé, des missions parlementaires ont enquêté sur un tas d'autres sujets, le Brexit ou sur l'industrie automobile en France, par exemple. À la fin, les parlementaires feront un rapport avec des critiques et surtout avec des recommandations qui déboucheront peut-être sur des textes de loi. Toutes ces auditions sont publiques, elles auront lieu une fois par semaine. Celle de ce soir se déroule en visioconférence et sera donc diffusée sur le site de l'Assemblée nationale.
Alors il s'agit bien dans un premier temps d'une mission d'information. Ça va servir à quoi concrètement ?
D'abord à contrôler l'application de l'état d'urgence sanitaire. C'est le rôle du Parlement de vérifier la mise en œuvre des mesures votées la semaine dernière. D'autant, Yves, qu'il s'agit de restrictions de liberté individuelle. Les députés vont chercher aussi à comprendre comment la crise a été pilotée au sommet de l'État. Est-ce qu'il y a eu des failles ? Pourquoi y a-t-il eu une pénurie de masques, de gel et de matériel en tout genre ? Forcément, les oppositions vont tenter de pousser le Premier ministre dans ses retranchements. La droite, par exemple, a décidé de faire remonter les attentes très concrètes du terrain. La France est-elle capable d'engager une campagne de tests de dépistage massif ? La France peut-elle fournir des masques à tous ceux qui en ont besoin ? Pourquoi les EHPAD manquent de surblouse ? Ou pourquoi la répartition des masques en France ne se fait pas en fonction de la démographie ? L'objectif, c'est d'être le plus concret possible et de repousser la polémique politicienne à plus tard.
Les députés, Vincent, peuvent-ils interroger qui ils veulent ?
Oui, des personnalités politiques, médicales ou de la société civile, ils sont libres. Les différents ministres de la Santé qui se sont succédés depuis des années devraient être entendus. Les ministres de l'Intérieur et de l'Économie aussi. Enfin, des scientifiques seront interrogés. Les députés promettent en tout cas de ne pas accuser le gouvernement d'avoir menti sur tout, comme l'a fait Marine Le Pen.
Merci beaucoup Vincent de Rosier du service politique d'RTL. Laissez-vous tenter à la maison maintenant avec les artistes confinés.